disais que puisqu'on n'est pas très nombreux ce soir, donc je vais profiter de l'occasion. On va commencer un nouveau chapitre, une nouvelle partie du Tania qui s'appelle Sha'arut Ve'emouna. J'ai pas envie de la bâcler, surtout qu'il y a plusieurs qui sont pas là. Donc on va s'attarder plus longuement sur les quelques premières années de Sha'arut Ve'emouna. Le thème principal qu'on va développer, Bezrat Hashem, donc les quelques cours qui vont suivre, et à la rentrée aussi Bezrat Hashem, voilà, en bonne santé. On va parler de Ardout Hashem. Page 27. Ardout Hashem, l'unicité d'Hashem. Alors, il faut que je m'arrête un petit peu sur cette notion, parce que c'est une notion sur laquelle il y a beaucoup de gens qui se trompent. Et en fait, c'est un des fondements de notre foi. Si je vous pose la question, d'après vous, quelle est la différence entre la mitzvah de croire en Dieu et de croire dans le fait qu'il y a un seul Dieu? Est-ce que c'est la même chose?
Non.
Je répète la question.
Non, c'est pas la même chose.
Vous avez une mitzvah de croire en Dieu, ce qu'on appelle Ha'amanat Elokut, ou Emuna Be'elokim, d'accord? Je ferme la pensée. Et on a une on a une première mitzvah qui s'appelle Ha'amanat Elokut, croire en Dieu, et une deuxième mitzvah qui s'appelle croire en Ardout Hashem, l'unicité d'Hashem. Est-ce que c'est la même chose? Monsieur Yassdi a dit non, c'est pas la même chose. Pourquoi vous dites c'est pas la même chose?
Un Dieu qui n'est pas notre Dieu à nous. On peut croire au Dieu seul, mais pas un autre.
Donc, est-ce que si je crois en Dieu, ça veut dire forcément je crois en fait qu'il n'y en a qu'un seul?
Non.
Non?
Bah, je sais pas, on s'est jamais posé la question. En principe, oui, c'est pas. Bah...
C'est vrai qu'en général, on ne se pose pas ce genre de questions.
Bah oui, on ne se pose pas la question.
En général, dans le monde, il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui croient en Dieu.
Ouais.
Et les gens qui ne croient pas en Dieu. C'est enfin, qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Maintenant, de nous dire des gens qui vont croire en plusieurs dieux, pourquoi pas, mais c'est très rare.
C'est ça.
Donc à la limite, moi, la question qui m'intéresse, c'est est-ce que tu crois en Dieu ou pas? Ça oui. Est-ce que tu es Ma'amin Be'elokim ou tu n'es pas Ma'amin Be'elokim? Est-ce que tu crois en Dieu ou pas? Mais là, apparemment, dans le judaïsme, on insiste sur un autre aspect de cette mitzvah. On nous parle de Ardout Hashem, croire en l'unicité d'Hashem. Et c'est tellement important qu'on en fait un fondement de notre foi, au point que tu demandes à n'importe quelle personne, résume-moi le judaïsme en un mot, en un verset, quel verset il te dira? Quel est le verset, d'après vous, le plus emblématique du judaïsme? Shema Israël. On va le traduire ensemble. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. Un, ça veut dire qu'il y en a un et pas
deux.
Et pas deux. Bon, mais personne pourra. Ça veut dire ce matin quand vous êtes levé, est-ce qu'il y a eu une personne qui s'est douté, dit c'est quoi parce qu'il y en a deux?
Est-ce qu'on est obligé de rajouter l'Éternel est un?
Voilà. Moi, j'aurais préféré de dire écoute Israël, il y a un Dieu.
Voilà, c'est notre Dieu.
Et c'est notre Dieu. Il y a un Dieu, l'Éternel, il y a un Éternel, c'est notre Dieu. Mais c'est pas ce qu'on dit. Oui. On dit pas, écoute Israël, il y a un Dieu.
27.
On parle d'un postulat. On dit, écoute Israël, l'Éternel, c'est-à-dire que tu dois partir d'un postulat qu'il y a un Éternel, il y a un Dieu. L'Éternel est notre Dieu. Et après, tu dis, l'Éternel est un.
Alors, dans le schéma Israël, c'est marqué Elohim. Mais dans certains passages, c'est marqué Elohim. Quoi, au pluriel?
Ok, c'est une bonne question. Mais déjà, moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est quoi le thème du chemin Israël? Est-ce qu'on parle de la mitzvah de croire en Dieu?
L'unicité.
Ou de la mitzvah de croire en l'unicité d'Hachem? Mais l'unicité d'Hachem, c'est facile.
Elle est de facto, quoi.
Ça veut dire, si déjà tu crois en Dieu, après de te dire, il y a un Dieu, il n'y en a pas deux, c'est pas shoot. C'est facile. Donc quand tu vas voir quelqu'un dans la rue, il va te poser une question, il va te dire, résume-moi ton judaïsme en un mot. Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Tu vas dire, tu sais quoi? Eh ben nous, on doit croire en fait qu'on a un seul Dieu. Bon, je veux dire, moi, j'aurais préféré que tu parles de monothéisme, de dire qu'il y a un dieu qui existe sur Terre.
C'est quoi la différence?
Alors, c'est une très bonne question. En fait, la différence, c'est quoi? C'est qu'on a mal compris ce que c'est la mitzvah d'unicité d'Hachem. Parce que comme tu dis, effectivement, si tu dis que la mitzvah, bonsoir, si tu dis que la mitzvah de croire en l'unicité d'Hachem, c'est de croire effectivement qu'il y a un dieu.
On vient de démarrer, hein.
D'accord? De croire qu'il y a un dieu. Et qu'il n'y en a pas deux. D'accord.
Dan, on vient. Allez. Laisse-le tranquille.
Bonne nouvelle. Si tu veux dire que la mitzvah, c'est de croire qu'il y a un seul Dieu et qu'il n'y en a pas deux, effectivement, pour nous, ça veut dire bon, croire en Dieu, c'est tout, nigmar. Mais en fait, on se trompe. C'est pas du tout ça la mitzvah. On va expliquer longuement aujourd'hui et dans les cours suivants. Qu'est-ce que ça veut dire croire en l'unicité de Dieu? Il faut qu'on s'arrête un peu sur la notion. On dit Hachem Echad, un. Ça veut dire quoi, un? Par exemple, ici, devant moi, je dis que j'ai un téléphone. Un, je dis un. Est-ce que ce téléphone est unique?
Non.
Non. Pourquoi?
Parce
qu'il y en a des millions dans le monde. J'ai pas fini. Maintenant, est-ce que je peux dire sur ce téléphone le chiffre 1?
Ouais.
Attendez, réfléchissez. Ce téléphone est composé.
Ah d'accord, ok.
Il est composé de quoi?
C'est un seul ensemble, tu veux dire?
Un ensemble.
C'est un seul ensemble.
Oui, mais il est composé de quoi?
Des millions de pièces.
Il y a des millions de pièces dans un téléphone comme ça. D'accord? Des millions de pièces. Pourtant, j'appelle 1. Moi, j'appelle 1 parce que moi, je vois une pièce devant moi.
Un microprocesseur, je sais pas combien.
Mais si j'avais devant moi, voilà. un ingénieur,
on va voir,
développer. Si j'avais devant moi un ingénieur, il m'aurait dit non, c'est pas un téléphone que tu as, c'est des millions de transistors que tu as ici.
Un être humain, c'est la même chose.
Alors voilà. Alors quand on dit que Hachem est un, c'est à dire quoi Hachem est un? Est-ce que Hachem c'est une composition de plusieurs éléments? Parce qu'on a ici, non mais attends une seconde, on a ici une planète avec des milliards de milliards de milliards d'éléments, etc. On a d'autres planètes, et donc tout ça c'est des éléments. Alors peut-être on pourrait dire que Hachem c'est quoi? Hachem c'est l'ensemble, comme tu as dit, l'ensemble de tous ces éléments. Pourquoi pas? C'est un ensemble, un ensemble.
Alors attends, il y a des plus si on a dit, que Hachem est un...
Comment on appelle un ensemble en hébreu? Non, un ensemble, klal. Klal. Oui, vas-y. Non, klal, c'est un ensemble. Un ensemble. Comme par, voilà, c'est par exemple, devant moi, j'ai un livre. Moi, je dis, j'ai un livre, mais en fait, c'est pas un livre. Là, c'est plusieurs feuilles, c'est de l'encre. Ils viennent pas forcément tous du même arbre, etc.
Alors, on a dit que quand il a créé à Kadosh Baruch Hu la création, ça ne lui a rien changé.
Ah.
Pourtant, la création, c'est un ensemble de choses. C'est le système solaire, la Terre, le Soleil, les êtres humains.
Donc, ça veut dire qu'on va devoir petit à petit arriver à la conclusion que tout est Dieu, et que, en fait, Dieu n'est même pas une composition de plusieurs éléments, c'est un seul élément. On doit arriver à ça, mais ça, il faut le développer. Et ça, et tout ça, il va le baser sur quel pasouk? Un pasouk. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Là, c'est passionnant parce que l'Admor HaZaken il veut nous montrer qu'on n'a rien compris au chemin Israël. Moi, depuis que je suis petit, chemin Israël, c'est quoi le chemin Israël? Écoute, Israël, il y a un Dieu. Bon, il n'y en a rien, il n'y en a pas deux. L'Admor HaZaken te dit, mais ça, c'est pas chou, ça. Il y a rien ici qui pense qu'il y a deux dieux. Il n'y a pas du tout. C'est pas ça, Hachem Echad. Hachem Echad, c'est que tu vas réussir à te travailler avec les éléments qu'on va t'expliquer, qui sont concrets, de comprendre comment tout fait partie de l'unicité d'Hachem. Alors, c'est pas simple parce que. Si on voulait parler d'unicité, on aurait dû dire peut-être Yahid. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est unique.
Mais il n'est pas un quand il est unique.
Pourquoi?
C'est pas la même chose.
S'il est unique.
Unique, ça veut dire que c'est séparé.
Parce que j'ai un problème avec le chiffre 1. C'est que quand tu dis 1.
Il est défini.
D'abord, tu le définis. Et en plus, quand tu dis 1, tu laisses la place à.
À 2.
À 2. Même s'il n'y a pas de 2, mais tu laisses la place à 2. Ouais. Donc peut-être que le terme pour Hachem aurait été plus adapté de t'as dire fini. Que Dieu est unique. Unique.
Oui, il est infini.
Oui, il est infini. Mais je comprends. Mais le rendre infini, c'est déjà une définition.
La définition de l'infini, c'est l'infini.
Donc l'infini, c'est du Echad aussi. C'est un Echad infini.
Oui.
Parce que toi, tu réfléchis dans l'infini.
Bon, ça,
on va développer, voilà. Tu réfléchis dans l'infini des mathématiciens. Mmh. En fait, il faut réfléchir dans l'infini des philosophes.
Ouais.
Ça, c'est pas un infini en quantité.
C'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Ça, il va parler de ça aussi.
C'est vrai que c'est pas la même chose.
C'est un infini en qualité.
Des philosophes, c'est pas la même
chose. Ok. Donc, c'est ça qu'on va parler. Donc, voilà, je vous donne le programme, mais ce sera ta chaîne.
Alors, sur quelle page
Et d'ailleurs, au passage.
27.
C'est quoi la première mitzvah? C'est quoi la première mitzvah du judaïsme?
Aimer son Dieu.
Première. Number one. Première mitzvah qu'on a reçue en tant que juif, c'est quoi?
Shabbat.
Premier commandement.
Anochi.
C'est quoi le premier commandement?
Ah non, mais je pensais dans.
Non.
L'ordre de la Torah.
Non, pas l'ordre de la Torah. Premier commandement qu'on a reçu en tant que juif.
Anochi.
Attends. Ah non, voilà. Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu.
Une déclaration?
Non, pas du tout. C'est pas une déclaration. C'est je suis l'Éternel de l'autre, donc tu dois croire en Dieu. Après, le deuxième commandement, quand tu rentres dans le Rambam, premier commandement, c'est croire en Dieu. Deuxième commandement, c'est de croire en fait que ce Dieu est unique et il n'y en a pas deux. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que il n'y a que les Bnei Israël qui ont la mitzvah de croire en l'unicité de Dieu. Les goïms n'ont pas d'interdiction de croire au fait qu'il y a quelque chose qui s'associe à Dieu. Ils peuvent se tromper, c'est une bêtise, mais ils n'ont pas d'interdiction. Enfin, quand tu parles de Trinité, etc., c'est une grande marquette dans le Shulchan Aruch. C'est une marquette dans le Shulchan Aruch, entre le Mechaber et le Rama, pour les Sfaradim, les Ashkenazim. Est-ce que ce que les idolâtres font, nous on l'appelle les idolâtres. D'abord, les Arabes ne sont pas idolâtres. D'accord ? Oui. Mais les chrétiens. Finalement, c'est quoi ? Est-ce que les chrétiens croient en Dieu ?
Oui.
Oui. C'est quoi le problème ? Ils ont associé quelqu'un. Ils ont associé quelqu'un à Dieu. Bon, de toute façon, nous, on est tous des fils de Dieu. Mais...
C'est ça.
Ah oui. Mais le problème, c'est qu'ils ont associé quelqu'un. C'est une erreur, pas de problème. Mais est-ce que c'est un péché ? Est-ce que c'est une faute ? Il y a un avis dans Shulchan Aruch qui dit que pour eux, c'est pas une faute, parce que eux, ils ont que la mitzvah numéro 1, ils n'ont pas la numéro 2. Ils ont la mitzvah de croire en Dieu, mais ils n'ont pas la mitzvah de croire que en Dieu et de ne lui associer rien d'autre. Donc, vous voyez, c'est les deux mitzvot. Croire en Dieu, c'est Ha'amanat Elokut, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'éternel ton Dieu. Et la deuxième mitzvah, c'est, comme on a dit, le fait, croire dans le fait que Echad, Hashem, Echad, Hashem, Echad. Donc, on va essayer, Bezrat Hashem, Chazak, merci. On va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer tout ça. Alors, vous savez quoi? Avant de commencer, je suis encore dans l'introduction, parce que comme on n'est pas nombreux aujourd'hui, je vous dis, on va faire une introduction. On va faire d'abord appel un petit peu dans l'histoire du judaïsme, comment, dans le temps, on a défini la notion de Ahdout Hashem, l'unicité d'Hashem. Je vous ai amené trois approches. L'approche de Maïmonide, l'approche du Zohar et l'approche de la Chassidoute. Alors, ces trois approches sont complémentaires. L'approche de la Chassidoute, c'est l'approche qu'on va étudier ici, dans ta chaîne, en chapitre 1, 2, etc. Mais pour comprendre la particularité de cette approche, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'il y avait avant. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va développer point par point. Je vais commencer par Maïmonide. Maïmonide, c'est l'approche la plus simple. C'est l'approche la plus répandue en vérité. Dit Maïmonide. Il dit, ça veut dire quoi, Ahdout Hashem? C'est croire en fait qu'il y a un seul Dieu. Croire en Dieu, c'est la base. Ça, c'est la mise en numéro 1. Mais c'est quoi la numéro 2? C'est votre question à tous. Si je crois en Dieu, donc je crois qu'il y a un seul Dieu. Non, Rambam te dit comme ça. Maïmonide, il te dit, c'est que tu crois en un seul Dieu, ça veut dire que tu dois croire que Dieu est le patron unique sur la terre. Il emploie, c'était un patron. Parce que, quand vous prenez l'exemple d'une entreprise, je vais expliquer ce que veut dire avec un exemple moderne. Quand vous prenez une entreprise, combien y a de patrons dans une entreprise?
Ça dépend.
Il y a un seul. Si on reste sur Terre, il n'y a qu'un seul patron.
Attends, on va prendre une grande entreprise.
Si on reste, c'est
voilà, combien, attends, ben voilà. Combien de, je sais pas, jaune, combien de combien d'employés, je sais pas, jaune?
Il y a un comité.
Combien vous êtes actuellement? Hein?
Ça réduit. Dans le groupe, 3500.
3500, d'accord. 3500, maintenant, est-ce qu'il y a un patron? Il y en a un ou deux?
Il y a un comité exécutif et il y a un PDG.
Non, mais d'accord,
mais
il y a un directeur général. Mais est-ce que ce directeur général dirige seul? Non. Pas possible.
Non.
Il va diriger d'autres personnes qui vont diriger d'autres personnes, qui vont diriger d'autres personnes, qui vont diriger d'autres personnes. Et à la fin, tu auras un chef d'équipe qui va diriger 10 personnes. Et quand il va rentrer chez lui, sa femme lui dit qu'est-ce que tu fais le soir? Sa femme lui pose la question, il dit qu'est-ce que tu fais? Il va dire, je dirige du monde. Je dirige 10 personnes. Et lui-même, il est dirigé par un ta-ta-ta-ta-ta, jusqu'à la fin, il y a un DG.
Pyramidal.
D'accord? PDG après. Ok, très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut dire la même chose pour Hachem? Pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Il y a un grand patron.
Il a des raves.
D'accord, voilà. Il a des anges, il a des raves, des ramifications, etc. Il a des petits rabbins de quartier. Bon, voilà, c'est chacun. Chacun, il dit chacun son niveau. Après, chacun va diriger sa famille, etc. Chacun sa place, voilà. Pyramidal. Comme ça, chacun retrouve son compte.
C'est pas pareil.
Pourquoi?
Parce que le dernier est dirigé par sa femme.
Parce que le problème qu'on a avec ça, c'est que c'est le mot que dit le Rambam. C'est que si tu dis ça par rapport à Hachem, tu veux dire que Hachem, il a des gens qui l'aident.
Voilà.
Ozer ou Messayer, qui l'aide. Comme le PDG. C'est-à-dire que le PDG, en vérité, il ne peut pas diriger 3500 personnes tout seul. Il ne peut pas. Donc, comme il ne peut pas, il a un système dans lequel, comme il avait dit à Moshe Rabbeinu, hein, qui va gérer 1000 personnes, etc. Il a un système comme ça pour s'assurer que, au final, il dirige l'entreprise. Parce que les ordres qu'il va donner vont être répercutés, etc. Donc, il dirige l'entreprise. Mais ça veut dire qu'il a besoin de personnes pour l'aider. Donc Maïmonide dit, d'après lui, c'est quoi la mitzvah de croire en l'unicité d'Hachem? C'est ça. C'est de croire que Hachem n'a besoin de personne pour l'aider. C'est pas mal déjà. Mm-hmm. Déjà comprendre ça, accepter ça. Que Kadosh Baruch Hu n'a besoin de personne pour l'aider.
Ça nous paraît logique, au départ.
Oui, ça nous paraît logique, mais quand on essaye d'adapter le modèle humain par rapport à Kadosh Baruch Hu, on se dit, mais finalement, voilà, qu'est-ce qui dérangerait que Kadosh Baruch Hu ait des délégués? C'était d'ailleurs... Alors, comment il explique ça, Rambam?
Oui,
il dit que c'est de là... Vas-y, ouais.
Ça voudrait dire que quelque chose échappe à son pouvoir.
Non, même pas. Même pas. Il s'arrête sur la question. Il dit non. Il dit ce qui nous dérange, c'est pas le fait de dire quelque chose qui échappe à son pouvoir. C'est le fait de dire qu'il peut pas le faire tout seul.
Ah, d'accord.
Voilà. Parce qu'un bon PDG, il n'y a rien qui échappe à son pouvoir.
Oui.
Mais Hachem, il dirige tout. C'est-à-dire que même le ménage qui va être fait, tu comprends, il dirige tout. Parce que c'est vrai, le PDG, si on lui pose la question, est-ce que vous savez qui dirige le ménage dans votre étage? Il n'a rien à faire. Maintenant, t'as un gars qui dirige 10 hommes de ménage, il va rentrer chez lui tout faire, il va dire, je dirige 10 hommes de ménage. Mais le PDG, il dit, je sais même pas comment il s'appelle, j'en ai rien à faire. Tu comprends? Hachem, il dit, moi, je dirige tout. Même le ménage, je dirige. C'est moi qui fais le ménage. Tu comprends? Alors, pourquoi Rambam explique ça? Parce qu'il dit, en fait, c'est de là qu'a démarré l'erreur de l'idolâtrie. Comment est devenu idolâtre? Comment les gens qui étaient croyants, l'humanité qui était croyante, est devenue incroyante? Si c'était dans l'autre sens, qu'au début on est né comme ça de nulle part et que personne n'est croyant, je comprends, on n'est pas croyant. Mais tout le monde était croyant, parce qu'on est tous nés de Adam. Adam, il raconte à ses enfants, il y a un Dieu. Quoi, il y a eu un qui est sorti qui a dit, moi je pense qu'il n'y a pas de Dieu. Tout le monde croyait en Dieu. Alors comment est venu un, il a dit, il n'y a pas de Dieu? Comment c'est possible? Comment est venue l'incroyance? Rambam dit, c'est très simple. Il dit, c'est pas que l'incroyance n'est pas venue comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que les êtres humains, avec le temps, se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à communiquer directement avec Dieu. Enfin, c'est pas qu'ils n'arrivent pas à communiquer, ils n'avaient pas de feedback.
Ils n'avaient pas de retour.
Ça veut dire, ouais, pas de retour. Tu parles à Dieu, mais ouais. Ça passe pas. Donc ils ont dit, on va parler avec ce qu'on connaît. Ils ont vu les astres. Ils ont dit, on voit, quand ça pousse, c'est que le soleil a fait son travail, la lune a fait son travail. Donc on va leur parler à eux, et eux, ils transmettront le message. C'est quoi leur erreur? C'est qu'ils ont considéré que le soleil, la lune et les étoiles sont des sous-chefs d'Hachem. Et donc ils ont dit, puisque j'arrive pas à parler au PDG, alors je vais parler à son second. Si j'arrive pas à parler à son second, je vais parler à celui qui est en dessous et qui parlera, etc. Donc quelle est l'erreur? C'est vrai, c'est n'importe, pourquoi pas, finalement. T'arrives pas à parler au grand, tu parles à celui qui est en dessous.
Ouais. Il y a aussi un pouvoir.
Qui a aussi un pouvoir. Tu peux faire, qui a même plus de pouvoir. C'est vrai.
Parce que tu vas concrètement là.
C'est connu que dans les entreprises, qui dirige tout? C'est les secrétaires.
C'est pas tout à fait juste.
C'est les secrétaires. Parce que concrètement, qui c'est qui fait passer les choses? Qui c'est qui fait les dossiers? C'est les secrétaires. Même bien sûr qu'il peut manipuler comme elle veut. C'est connu,
non,
ça.
Non.
Hein? Celui qui.
Elle dirige pas.
Elle dirige pas. Mais ça veut dire qu'elle a beaucoup plus d'influence. Bien sûr.
Tu parles d'une situation, hein, la secrétaire, elle est de...
Avec le...
Avec le ministre qui a chassé sa...
Ah bah oui.
Sa coordinatrice.
Parce qu'elle fait passer, c'est oui. Qu'elle veut.
Mais qui c'est qui dirige? C'est qui faisait?
Oui, c'est lui qui décide.
Mais elle a un grand pouvoir. Une stagiaire peut faire tomber un président.
Ouais, elle s'occupe de vos couches. Oui. Il a fait dire pas qu'elle parle, mais...
Bon, mais Kitsour, Rambam dit comme ça. Rambam dit, c'est ça leur erreur. Leur erreur, c'est quoi? C'est que eux, ils ont considéré que Akadosh Baruch Hu, il a des délégués. Et si j'arrive pas à accéder directement à Kadosh Baruch Hu, je parle au délégué. Parle au sous-chef. Et ou bien au sous-sous-chef, etc. Moi, c'est quoi l'erreur? S'ils n'ont pas compris, c'est que le soleil, la lune et les étoiles n'ont pas d'autonomie. Ils ne sont pas une entité indépendante. Comment il dit là-bas? Il dit que le soleil, la lune et les étoiles sont comme la hache dans la main du bûcheron. Imaginez un bûcheron qui est là avec une hache dans la main, qui va couper un arbre. Qui a coupé l'arbre?
Bûcheron.
Non!
La hache!
C'est le bûcheron.
Oui, mais c'est la hache qui a coupé.
Mais la hache, d'accord.
Okay. Ah.
Il aurait pu prendre une tronçonneuse aussi.
Mais objectivement, qui a coupé? C'est la hache?
Mais il faut être brel pour regarder la hache qui coupe.
Seulement voilà, quand tu prends du recul, tu comprends, hein, que la hache, c'est un morceau de fer. Qui a coupé? C'est le bûcheron qui est derrière. De la même façon, quand tu vois le soleil éclairé, tu dis, ah, le soleil, il a éclairé. Mais qui a éclairé le soleil? Qui fait éclairer le soleil? C'est Hachem. C'est l'erreur qu'ils ont fait. Ça, ce que je viens de vous dire, c'est l'approche de l'unicité d'Hachem d'après Maïmonide. Voilà. Il dit, c'est quoi Hachem Echad? C'est-à-dire que Hachem se fait aider par personne. Bon, c'est déjà puissant comme idée. Maintenant, le Zohar donne une autre dimension, qui est complémentaire. Tout ça, c'est complémentaire. Le Zohar, il dit, le Zohar, il parle pas de la direction du monde. Le Zohar, il parle de la création du monde. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit que Akadosh Baruch Hu a plusieurs noms. On l'appelle Hachem, on l'appelle Elohim, on l'appelle Ado, etc. On l'appelle Memale, on l'appelle Sauveur, on l'appelle Tsevakot, on l'appelle etc. Donc il a plusieurs noms. Donc s'il a plusieurs noms, pourquoi il a plusieurs noms?
Parce que c'est lui.
Oui, mais je comprends, mais quelqu'un qui a plusieurs noms, pourquoi il a plusieurs noms?
Il y en a plusieurs.
Ah. Peut-être qu'il a plusieurs attributs.
Ah, donc c'est ce qu'il dit. Ah. Il dit peut-être que ça veut dire qu'il y a plusieurs attributs. Donc s'il y a plusieurs attributs, ça veut dire que peut-être que Hachem, il a peut-être plusieurs façons de s'exprimer. Voilà. Distinct. Et qu'il y a le Hachem, Hachem, il y a le Elohim, il y a le Adonai, il y a le Si, etc. Quoi? C'est la réalité. Par exemple, tu commences le Chumash, comment s'écrit le Chumash? Bereshit Bara, Elohim. Tu comprends? Le nom d'Hachem vient bien plus tard. Le nom Yud, Ke, Vav, Ke, le tétragramme vient bien plus tard. Alors, dit le Zohar, il va plus loin. Le Zohar, il dit, c'est quoi l'unicité d'Hachem? L'unicité d'Hachem, c'est de dire, que même si quand tu lis la Torah, c'est même pas une idée que toi tu as, quand tu lis la Torah, tu vois des noms différents, tu dis, bon, bah, s'il y a différents noms, c'est qu'il y a différents conduits. D'accord, c'est le même, mais il y a différents conduits. Ce Hachem, il est composé. Il est composé de tac, tac, tac. Il y a Hachem, il y a Elohim, il y a Si, il y a Tsevakot, il y a Si, il y a ça. Et tu peux pas m'en vouloir de penser comme ça. C'est la Torah qui parle comme ça. J'ouvre le chumash, Elohim. Rendis Hachem, Elohim. Je dis, mais je comprends pas, l'éternel et Dieu, c'est la même personne ou c'est pas la même personne? Comment ça marche? Alors qu'est-ce qu'on te dit? Le Zohar te dit, c'est quoi Hachem Echad? Hachem Echad, c'est qu'on doit avoir la Emouna. On doit avoir la Emouna que tous ces éléments font partie d'un seul et même Hachem. C'est même pas une composition, c'est juste des facettes qui sont perçues par l'homme comme ça. Vous me suivez? Et c'est comme des fois, vous avez des fois des diamants ou des choses comme ça, qui a une seule couleur. Mais selon l'angle que tu vas le prendre, il va te donner une autre couleur. Maintenant, si tu poses la question, quelle est la couleur de l'objet? Il a une couleur. Mais selon l'angle que tu vas prendre, il va donner une autre couleur. Comme ça qu'explique le Zohar. Le Zohar, il dit, c'est quoi Ardout Hachem? C'est quoi l'unicité d'Hachem? L'unicité d'Hachem, c'est de te dire que tous les attributs que te donné Hachem, en vérité, ne sont que des facettes que nous, on voit, mais qu'en vérité, c'est un seul Hachem. C'est le Zohar. Et là arrive la Chassidoute, qu'on va commencer à développer aujourd'hui. Qui est basée sur un commentaire du Baal Shem Tov. D'accord? Baal Shem Tov, il dit, c'est pas ça, Ardout Hachem. Enfin, c'est pas que c'est pas ça. C'est encore autre chose. C'est quoi Ardout Hachem? C'est quoi l'unicité d'Hachem? C'est de réaliser que tout est Dieu. Maintenant, Maïmonide, il a parlé, si vous voulez, je vais expliquer le chidouche. Maïmonide, quand il a voulu définir l'unicité d'Hachem, de quoi il a parlé? Il a parlé de ceux qui pourraient...
À bientôt.
Non, bonne nouvelle. Maïmonide, il a parlé de ceux qui voudraient voir plusieurs personnes dans le comité directeur d'Hachem. C'est Maïmonide. Le Zohar, il a parlé de la création du monde, que même si on te donne différents aspects d'Hachem, en vérité, c'est le même Hachem. La Chassidoute te dit, c'est pas comme ça que voir les choses. Il y a encore un autre aspect. Hachem Echad, c'est de te dire que tout ce qui est autour de toi fait partie de l'unicité d'Hachem. C'est-à-dire, on va pas te parler de la création du monde, on va pas te parler d'un DG, d'un comité, etc. On va te parler de toi. On va te parler de la bouteille en plastique qu'il y a devant toi. On va t'expliquer qu'il faut que tu comprennes que cette bouteille en plastique, c'est Dieu. Et même si j'ai une bouteille ici et une bouteille ici, que c'est pour moi c'est deux éléments distincts, cette bouteille et cette table et ce livre et ce verre et ce téléphone font tous partie d'une seule, je peux même pas dire le mot entité parce que l'entité c'est composé, d'un seul élément, même élément je peux pas dire, d'accord, d'une seule chose qui s'appelle Hachem. Comment ça marche? C'est pas possible ça. Là c'est plus compliqué.
C'est-à-dire que avant Bara, il y a rien.
Ah.
Avant Bara.
On peut pas dire ça.
D'accord, mais nous, les êtres humains, avant Bara,
ouais.
Il y a Wello. Donc, y a zéro.
Si tu dis ça, ça veut dire que
ça a changé les choses.
Très bien. Mais le problème, c'est que si tu dis ce que tu dis, ça veut dire que la création du monde a changé quelque chose dans Hachem.
Alors, comment ça peut être différent?
Ok, bonne question.
Parce que si on dit que de cette chose Hachem, rien ne lui a changé, il y a quand même quelque chose avant Bara et après Bara.
Très bien, bonne question.
Alors comment
c'est possible?
Comment on fait?
Comment ça marche? C'est une très bonne question. C'est la question qu'on pose à Shlomo Kodesh.
C'est la seule question qui reste.
Parce que c'est un vrai paradoxe. D'un côté, on te dit, qu'est-ce qu'on te dit d'un côté ? On te dit qu'il y a un seul Dieu qui n'a pas changé. D'un autre côté, moi, je vois qu'il y a un monde qui a changé. Je vois une évolution dans le monde.
On dit qu'il a, il a créé ce.
D'accord. Alors, comment, comment je peux accorder la réalité que je vois avec mes yeux avec ce que les textes me disent ? Comment la réalité que je vois avec mes yeux, c'est que j'ai un monde qui évolue et qui est composé de milliards d'éléments. Comment je peux accorder ça avec, la, avec ce qui est écrit dans les textes ? Donc ça, c'est la réalité. Mais comment je peux accorder ça avec, avec ce qui est écrit dans les textes quand on te dit que Hachem est un et que tout est un et que Hachem n'a jamais changé ? Comment c'est possible, ça ? Je vous dire quelque chose. Chez les chassidim, on dit comme ça. On dit qu'il y a des gens qui se posent la question. Ils demandent, ils disent... La question qu'ils posent, ils disent, est-ce qu'on a une preuve que Dieu existe ? Il y a des gens qui posent cette question. D'accord ? Est-ce qu'on a une preuve que Dieu existe ? En vérité, un chassid ne doit pas poser la question comme ça. Il doit dire, est-ce qu'on a une preuve que le monde existe ? Qui te dit que tu existes ?
D'accord, alors c'est quoi la
Torah ? Attends, deux secondes, réfléchis.
D'accord, ok, j'ai compris. C'est quoi la Torah ?
Je vous en ai parlé, ça fait quelques... je me rappelle quand on avait fait le premier passage de ce Tania là. À cette époque-là, il m'avait raconté un cours de Tania, je crois que c'était en 2008. Ouais. Voilà, Matrix. Il y avait un film qui s'appelait Matrix. Hein? C'est quoi le truc qu'on m'a raconté? Enfin,
Matrix, c'est en gros, est-ce que finalement c'est.
Alors,
c'est
on m'a raconté. Oui, c'est pas. Tu me corrigeras si je me trompe.
Non, Matrix, c'est simple. C'est, c'est une guerre. Une
alors,
guerre.
Attends, j'ai l'idée qu'on m'a. On m'a dit qu'on m'a dit comme ça. Au milieu du film, je sais pas, ou au tiers du film, ou deux tiers du film, je sais pas où, à un moment, on lui présente deux gélules. C'est ça? Une gélule bleue et une gélule rouge. Et selon la gélule qu'il va prendre, il aura une autre vision. Donc ça c'est une question que Racine pose. Qui te dit que le monde existe ?
D'accord, alors pourquoi on voit la Torah ?
Quelle est la seule preuve, quelle est la seule preuve qu'on a que le monde existe ?
Alors pourquoi attendez, on voit la Torah ?
Peut-être. On n'est pas dans un rêve.
Qui me dit qu'on ne rêve pas ?
Non mais d'accord, mais il a sûrement raison. Non mais c'est pas la question, c'est possible.
Non, c'est quoi la preuve ? Il y a une preuve. Une seule preuve. Une vraie preuve. Authentique.
D'accord.
C'est que la Torah dit que Dieu a créé le monde.
Bah oui.
D'accord, mais ça répond pas à la question. D'accord, mais j'ai compris, mais ça répond pas à la question.
Non, pas encore. D'accord.
On va de si je pense Marcel, il va faire aïe. Oui. Donc c'est que ça existe.
Mais finalement, Marcel. Mais Marcel, c'est pas de la matière ce que tu touches.
Est-ce que tu rêves pas quand tu fais ça?
Mais Marcel, c'est pas de la matière que c'est pas de la matière que tu touches.
Peut-être c'est dans mon rêve que je l'ai pensé.
Mais est-ce que la matière de Marcel est une vraie matière? Peut-être c'est que de l'énergie en vérité.
Ouais.
C'est le mouvement de l'énergie qui crée la matière, donc c'est faux, c'est pas de la matière en vérité. Alors est-ce que la matière est réellement une matière ?
C'est de la lumière.
Donc c'est pas de la matière alors. Donc si c'est pas de la matière, ça n'existe pas. Parce que moi je définis juste par rapport à la matière. Ce que je touche, ça existe, ce que je touche pas, ça n'existe pas.
Ouais, mais comme la matière, c'est... voilà.
Donc ça n'existe pas alors ?
Oui.
Alors ?
La matière, c'est une combinaison, c'est ça de la...
Nous, on définit les choses par rapport... Par rapport, il est là, il est pas là. Tu comprends? T'as un bébé qui est là, il naît. Bon, il naît, il pousse, il est là. Après, il meurt. Après, il meurt, il disparaît. C'est comme ça. On définit la vie par rapport à la place que ça occupe. Ok, on est d'accord? Par rapport donc à la matière. Mais c'est quoi la matière?
La matière.
C'est quoi la matière finalement?
La matière, c'est de l'énergie.
C'est l'énergie.
Ouais. C'est l'énergie.
Donc c'est quoi? Est-ce que
l'énergie, donc c'est en réalité, ça a pas de consistance.
Ça a pas de consistance. Ça sert à rien alors. Enfin, c'est pas rien, mais c'est pas... Ouais. Bon, ben, quitte-toi, on va pas s'en... Allez, on s'assied... Non, au contraire.
On va pas devenir fou.
On
va savoir.
C'est important de se poser ces questions. Parce que, comme, vous voyez, en fait, c'est pour ça qu'on a eu toute l'introduction de Shacharut Emouna, de Chinour Katan, juste avant. Dans lequel Admour Hazaken nous a comparé la Emouna à l'éducation. Vous vous rappelez, on a fait trois cours sur l'éducation. Pourquoi on a parlé d'éducation? Car on parle d'éducation. Parce que de la même façon que tu comprends que pour un enfant, il n'y a rien qui vient tout seul. Tu veux qu'il arrive quelque part, il faut l'éduquer. De la même façon, nous maintenant, on va s'éduquer nous-mêmes. Et tu n'arriveras pas tout seul. Il faut t'éduquer. Il faut t'expliquer comment Dieu a créé le monde, qu'est-ce qu'il a fait, et pourquoi, même s'il a créé le monde, ça n'empêche pas que ça fait partie de l'unicité d'Hachem. Comment c'est possible? Il faut chinour, ça. Dans l'éducation, des fois ça prend du temps, des fois ça prend 15 ans, ça prend 20 ans, des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois ça marche mieux, des fois ça marche moins bien. C'est comme ça. C'est ce qu'on va faire. D'accord ? Ok, on y va. Page 27. La vie de Mahatmise pour comprendre un temps soit peu. Voilà, bon, il vous met une mot parfum. Hein? Non, page 27.
Non, c'est pas
vrai. Non, c'est l'introduction, attends. Là, c'est les deux lignes d'introduction. La vie de Mahatmise pour comprendre un temps soit peu, Machekatou Bezoar, ce qui est écrit dans le Zohar, de Shema Israël ou Ichuda Ila'a, ou Vaorchen Kamortelamved ou Ichuda Tata. Le Zohar nous dit que Shema Israël, donc écoute Israël, éternel, notre Dieu, éternel est un. Première phrase. C'est, d'accord, Ichuda Ila'a, le niveau d'unité supérieur, le niveau supérieur d'unité d'Akadosh Baruch Hu, on va expliquer. Ou Vaorchen Kamortelamved ou Ichuda Tata. Alors que, la deuxième phrase du Shema, béni soit le nom glorieux de son règne à jamais. D'accord? Ça, c'est Yichud Tata, c'est le niveau inférieur d'unité. Bon, évidemment, ça nous aide pas trop ce qu'on est en train de dire. On comprend. Le Zohar, tu dis comme ça. Tu dis, Shema Yisrael, Shema Kona Shema Echad. Ça, c'est le niveau d'unité supérieur. Or, Shaykh, Marotol Alam Ved. C'est le niveau d'unité inférieur. Déjà, je vais vous expliquer d'où le Zohar, il sort ça. Echad et Vaed, les deux sont composés de trois lettres. Oui? Echad. Aleph, Red, Dalet, Vaed, Vav, Aïn, Dalet. Maintenant, on va expliquer plus tard que le mot Echad et le mot Vaed sont des mots qui se combinent. Pourquoi? Parce que on va expliquer plus tard que il y a des lettres qui s'interchangent. On va commencer à rentrer maintenant dans la numérologie. La bonne numérologie. Il y a des lettres qui s'interchangent. En fait, dans les lettres, il y a cinq groupes. Les lettres gutturales, enfin, il y a cinq groupes. Et les lettres de chaque groupe peuvent s'interchanger. Ok? Donc, on va prendre par exemple, il y a un groupe de lettres qui sont, on les appelle les lettres imperceptibles. Ok? C'est le Aleph, le He, le Vav et le Yud. Et dans chaque groupe, les lettres de chaque groupe peuvent s'interchanger. Aleph, He, Vav, Yud. Ok? J'ai dit Shema Israël, Hashem Ekonu, Hashem Echad. La première lettre de Echad, c'est quoi? C'est Aleph. Donc le Aleph peut s'interchanger avec le He, le Vav et le Yud. Donc là, je vais l'interchanger avec quelle lettre? Avec le Vav de Vaed. Ok, on continue. Deuxième groupe, les lettres gutturales. Aleph, He, Chet, Aïn. La deuxième lettre du mot Echad, c'est quoi? Het. La deuxième lettre du mot Vaed, c'est quoi? Aïn, guttural aussi. Donc on a encore une fois deux lettres qui sont les deux du groupe de lettres gutturales. Mais vous inquiétez pas, on va développer tout ça. Je vous donne un petit preview, d'accord. Et le troisième, c'est quoi? Le troisième, c'est les lettres qui viennent. C'est quoi le troisième? C'est quel groupe? Troisième. Il faut. En façon, on verra après le présent d'Hachem. Troisième groupe, c'est dans lequel il y a Dalet. Je crois que c'est la lettre qui vient du palais, ça. La Dalet. Et le Dalet peut s'interchanger aussi avec quatre lettres. Et une des quatre lettres, c'est quoi? Bah là, de toute façon, là, c'est pas compliqué. Vaed et Echad, les deux terminent avec Dalet. C'est ce qu'on va faire dans ce chapitre. Ce chapitre, on va essayer d'expliquer comment tout est généré par Hachem. Et pour ça, on va faire appel à beaucoup de gimatria. Donc, ceux qui aiment la gimatria, ceux qui aiment les calculs, ceux qui aiment les coulisses vont être servis. Aujourd'hui et les prochains cours vont être servis. Ok, on y va. Alors, donc, ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui, c'est quoi l'unicité de, c'est la mitzvah de Achdout Hashem, l'unicité d'Hashem. C'est quoi l'unicité d'Hashem? On est d'accord? Ça, tout de suite. Yadat Ayom Vashavot Alevavech Aki Hashem ou Elokim Vashema Ima Alvalaraz Yitarat En Od. Dans la paracha, c'est la paracha, on passe à Chumash, je crois que c'est le début de la paracha Vaetranan, ou à la fin de notre Varim. Pas vous dire de bêtises. Vaetranan. Dans la paracha, dans le début de la paracha Vaetranan, Moshe Rabbeinu, il rassemble le Bnei Israël. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Regardez le passage qu'il leur dit. Veyadata hayom. Regardez les mots, regardez pas moi. Veyadata hayom. Et sache en ce jour. Vahashevota el levavecha. Et tu vas garder ça en ton cœur. Ki Hashem ou Elokim, Vashamay Mimal. Que l'Éternel est Dieu. Dans les cieux, en haut. Vala aret mitachat, et sur la terre, en bas. En od. Il n'y a point d'autre Dieu. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme le message du Shema Israël, Hashem Ekolonu, Hashem Echad. Mais formulé différemment. Qui c'est qui s'adresse à nous, là? Qui c'est qui nous parle?
Moshe.
C'est Moshe. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe? Moshe, il fait un grand rassemblement. Il rassemble tout le peuple juif. Il leur dit, tu sauras aujourd'hui, tu vas comprendre que Hashem, où est Elohim? Hachem est l'éternel. Dans le ciel en haut et dans la terre en bas, il n'y a rien d'autre à part lui. Pose une question à Morazek. Le tzerk, la vie, il faut comprendre. Pourrais-tu imaginer qu'il existe un dieu résident dans les eaux? D'accord? Je te savais que l'Azir Al-Kar. C'est-à-dire, quand tu dois mettre en garde quelqu'un, tu dis attention, il y a un seul dieu. Ça veut dire qu'il y a une hypothèse qui aurait pu penser qu'il n'y en a pas qu'un seul, il y en a d'autres. On est d'accord? Pourquoi il y a quelqu'un ici qui s'est levé le matin qui s'est dit peut-être qu'il y a un dieu qui est caché dans les océans? Il y a le dieu des mers, il y a le dieu de la lune, il y a le dieu de la terre, du soleil.
Y'a
pas?
Les Grecs, il y en a qui l'ont fait, les Grecs.
Je comprends, non, ils ont dit Dieu pour dire. Je comprends.
Mais ils avaient leur Dieu. Hein.
Quand Moshe Rabbeinu s'adresse aux Bnei Israël, les Bnei Israël sont à un stade où ils sont déjà Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. Ouais.
Après, il a besoin de leur confirmer
ça. Oh, c'est ma question. C'est la question que pose Noam Razaken. Noam Razaken, il dit, mais Moshe Rabbeinu qui rassemble tout le peuple juif, je sais pas, il doit avoir un message particulier à leur faire passer. Quel message leur fait passer? Attention, tu sauras que Hachem ou Elohim, il y en a un seul, il n'y en a pas deux.
Alors, c'est pour le futur qu'il a.
Et je vais vous dire plus que ça. Qu'est-ce qu'on va faire dans le moment le plus important de l'année? C'est Yom Kippour. Et Yom Kippour, le moment le plus important, c'est quoi? C'est l'année Ila. Et dans l'année Ila, le moment le plus fort, c'est quand? C'est la fin de l'année Ila. Et qu'est-ce qu'on scande? Qu'est-ce qu'on dit à la fin de l'année Ila? Qu'est-ce qu'on dit? Shema Israël. Hein? Après, on dit Hachem ou Elohim. Traduction. Combien de fois on répète Hachem ou Elohim?
Sept fois.
Non, c'est quoi Hachem ou Elohim? Traduction. Traduisez-moi Hachem ou Elohim. L'éternel est Dieu. Qu'est-ce que tu racontes? L'éternel est Dieu. De quoi tu parles? L'éternel est Dieu. Pourquoi? Il y a quelqu'un ici qui a dit, ah, peut-être qu'il y a l'éternel, mais c'est pas Dieu, tu vois. Donc, il faut dire l'éternel est Dieu. Moshe Rabbeinu, il rassemble tout le monde. Et il leur dit, vous allez comprendre qu'Hachem ou Elohim, hein?
Elohim, c'est celui qui fait.
Je sais pas, pour l'instant, on va pas rentrer dedans. Je comprends déjà maintenant. Je suis perdu là. On l'a fait, vous l'avez fait à Kippour, non?
Oui, bien hein? Sûr.
Vous l'avez fait, n'est-ce pas? Hachem ou Elohim. Oh, Shema Israël, encore, on va dire, je comprends. C'est une phrase, phrase clé, judaïsme, pourquoi pas? Hachem ou Elohim, l'éternel est Dieu, l'éternel est. Imaginez ton gosse, il te pose une question. Il dit, papa, qu'est-ce qu'on a dit cette fois là? Qu'est-ce que t'as dit cette fois? Il dit, on a dit, l'éternel est Dieu. Ah, parce que l'éternel, je croyais que c'était peut-être pas Dieu, tu vois. L'éternel est Dieu. À la limite, j'aurais préféré que tu me dises, Dieu est éternel. Ah oui. Pourquoi pas?
C'est Dieu, il n'y a pas besoin de dire qu'il était.
Mais bien sûr! C'est quoi ça? C'est quoi Hachem ou Elohim? Et ça va être la piste que va prendre le Morazaka maintenant. Je vais nous prendre une piste pour expliquer que c'est quoi Hachem ou Elohim. Elohim, c'est Hachem tel qu'il pénètre la nature, tel qu'il rentre dans la nature, tel qu'il fait la nature. Parce que Elohim, c'est la même valeur numérique que Hateva, la nature. Ouais. Maintenant, Hachem, l'éternel, c'est le tétragramme, ça représente le nom d'Hachem, qui transcende la nature. Maintenant, moi, ça me dérange pas de croire en Dieu, de croire qu'il y a un grand Dieu, qui transcende la nature, qui fait tout, etc. Mais il est en haut. Il est en haut, il est partout, ce que tu veux, mais, voilà, il est partout. Il est partout, sauf là. Il est pas dans mon verre. Mais que tu me dises, que Hachem, who est Elohim? Que le même Hachem que tu t'imagines, le grand, grand, grand Hachem, c'est le même Elohim, c'est la même divinité, c'est la même énergie qui est là dans ton verre. Hachem, où est Elohim? Skif, kif, c'est la même chose. Ça, c'est plus compliqué à comprendre. C'est pour ça que combien de fois on le répète? 7 fois. Chiffre 7, c'est la nature. Ça veut dire que c'est plus compliqué à comprendre. Me dire qu'il y a un Dieu, pourquoi pas? Il y a un Dieu, pourquoi pas? Et me dire qu'il est très grand, il est très, très grand, Dieu. C'est pas de problème, il est très, très grand. Mais de me dire, ce Dieu qui est très grand, en vérité, c'est le même en haut, le même en bas, le même partout, et le même dans ton verre, et le même dans ta réalité, ça c'est plus compliqué. De comprendre qu'il n'y a rien qui échappe à Dieu, et que même quand tu as fait une erreur dans ta vie, cette erreur était dirigée par Hachem, etc. Bon, ça il faut qu'on développe plus tard. Mais de comprendre des choses comme ça, ça c'est beaucoup plus complexe. Ça c'est complexe, ça fait peur ça. Là vraiment on va devenir fou, là, je l'ai dit. Vraiment on va devenir fou. Mais c'est ça ce que Moshe Rabbeinu voulait dire. Quand il rassemble les Bnei Israël, il leur dit « Veyadata Hayom ». C'est quoi Veyadata Hayom? On le dit d'ailleurs, où on le dit Veyadata Hayom? Allez, nous échapper, très bien. Veyadata Hayom, tu sauras, tu vas comprendre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Maintenant, je comprends ce qu'il y a à comprendre. C'est pas juste une information qu'on te donne. On n'est pas juste en train de te dire, il y a un Dieu, il n'y en a pas deux. Ça, c'est pas chaud.
C'est une affirmation.
C'est un devoir de réflexion qu'on te donne. De réfléchir avec les idées qu'on va te donner. Pour t'expliquer constamment comment tout ce qui t'entoure et tout ce que tu es, c'est Hachem. Il n'y a rien qui échappe à Hachem. Ça, pour ça, il faut un da'at. Il faut veiller à da'at, il faut réfléchir pour ça. Et ça, Moshe Rabbeinu a besoin de nous mettre en garde. De dire, attention, Veyadata hayom vahashevota levavecha. Tu saches en ce jour et garde-le en ton cœur. Ça veut dire, c'est une idée qui est pas simple, ça. De te dire que tout est Dieu. Ça, c'est compliqué. De me dire qu'il y a un Dieu, qu'il n'y en a pas deux, c'est une information. Une fois que je l'ai, elle est là. J'ai pas besoin de me la répéter tout le temps. J'ai pas besoin de la savoir dans mon cœur. Aniodea, je sais. Mais là, apparemment, on veut nous toucher quelque chose de beaucoup plus grand. Je veux continuer. Parce que vous allez voir, on va reprendre des textes en réalité qu'on lit à Kippour. Pas qu'à Kippour, mais surtout à Kippour. Des textes surtout qu'on répète plusieurs fois. Mais en vérité, on comprend rien du tout ce que ça veut dire. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Leolam, Hashem, Vacha, Nitzav, Hashemaim.
On l'a dit 12 fois.
Hein? Bon, alors, traduisez-moi ce texte.
12 fois.
Fermez la porte, s'il vous plaît, les enfants. Ah, il faut aller là-bas, s'il vous plaît. Ici, il y a un cours. Merci. Alors, Leolam, Nitzav, Vachamaim. Traduction.
Leolam.
Oui. Ça veut dire quoi? Traduction.
Pour
toujours, ta parole, Hachem, se trouve dans les cieux.
Oui. C'est la traduction.
S'il n'est pas dans les cieux, il n'est pas chez moi.
Et pourquoi Bézal, qu'est-ce qu'il raconte?
C'est dans les Télim, ça aussi, on le trouve.
Oui. Léolam, Hachem, Vachan, Psaume 119.
On le dit tous fois, je crois. C'est ça.
Mais pourquoi tu le dis? Qu'est-ce que tu racontes?
Bon. C'est joli.
Oh, il y a des
derrière. Bien sûr que je veux derrière. L'Éternel est Dieu, ta parole est tout le temps dans les cieux. Mais... Ne croyez pas. On va expliquer. Là, on va commencer à comprendre un petit peu.
Ça veut dire que c'est des paroles que nous, on ne comprend pas.
Non, ça ne marche pas, ça. Non. Ça, si vous voulez dire ça, on peut fermer le livre. Non, ça vous a raison.
Mais il y a beaucoup de choses qu'on comprend.
Non, ça, c'est pas un. Non. On a une mitzvah de chercher à comprendre. Je comprends ce que vous voulez dire, c'est très profond ce que vous voulez dire. Vous voulez dire, bon, on comprend pas, c'est comme ça.
On étudie, mais même la plus grande...
Non, mais on doit se casser à la tête pour essayer de comprendre. Mais être misère, même un petit peu, un temps soit peu, il a dit. Mais il faut comprendre. On peut pas garder toute notre vie une émouna de petit enfant. Une émouna d'ignorant, en tout cas. Je vais vous dire quelque chose. Une fois, il y a un commentaire dans lequel le Rabbi, il a dit comme ça. Il a dit, les gens... Dès qu'il s'agit de leurs affaires et dès qu'il s'agit de leurs études, ils vont utiliser toute leur tête.
C'est vrai.
Mais dès qu'on leur parle de Dieu, là, ils vont dire ouais, bon, j'ai pas besoin de chercher, je crois comme un bébé, comme un ignorant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tes affaires, tu as utilisé l'outil le plus précieux que tu as, qui est ton cerveau. Mais pour la Emouna Hachem, tu dis non, je n'utilise pas cet outil. Je vais rester comme un bébé. Pourquoi tu fais ça? T'as pas le droit de faire ça. Si Hachem t'a donné un cerveau,
vous éduquez comme ça.
Ah ben c'est une erreur. De la même façon que tu utilises ton cerveau pour tes affaires, tu dois essayer d'utiliser ton cerveau pour essayer de comprendre la Torah, pour essayer de comprendre qui est Dieu, en tout cas comment tu t'es situé par rapport à Dieu.
Nous on a éduqué nos enfants.
Ah ben vous inquiétez pas, avec le temps il rectifie le tir. Il y a la chassidoute pour ça. Inectiv, allez on y va. Vous donnez le mot. Inectiv, page 28, troisième paragraphe. Inactive, il est écrit Leola Machet Vachanitzav Bachamaim. Pour toujours, Hachem, ta parole est présente dans les cieux. Allez là-bas, les enfants, s'il vous plaît. Ou Piresh Baal Shem Tov Zichrono Livracha. Le Baal Shem Tov, de mémoire bénie, a expliqué comme ça. Kidvacha Shamarta Yehir Akia Betochamaim. Quand on dit ta parole, de quelle parole on parle? Quelle parole?
C'est la Torah.
Quelle parole? Non. On parle de la parole que Dieu a utilisée pour créer le monde. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a dit des paroles. Alors, regardez comment Bachatov explique. Que la parole que Dieu a dit, par exemple, Yehi Rakia Betoch Hamayim, lorsque Dieu a dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, Tevot Veotiot Elou, ces mots et ces lettres, Dieu a parlé. Donc il y a eu des mots et des lettres. Ces mots et ces lettres, emnitzavot veomdot leolam betor akia shamaim. Ces mots et ces lettres se tiennent fermement à jamais à l'intérieur du firmament des cieux.
C'est en permanence.
Ça veut dire, par exemple, Dieu a dit que la lumière soit. Maintenant, nous, quand moi, par exemple, je dis à quelqu'un, amène-moi un verre d'eau, et qu'il m'amène le verre d'eau.
L'action est finie.
Ma parole, elle est terminée depuis longtemps. Le verre d'eau, il est devant moi. Je vais le boire et à la fin, il restera ni la parole, ni le verre d'eau. Ça, c'est pour moi en tant qu'être humain. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Leolam Hashem Dvaracha Nitzav Bashamayim. La parole d'Hashem, la parole que Dieu a employée pour créer le monde.
Elle est dans les cieux.
Non, justement.
En permanence.
Bashamayim, ça veut dire elle est toujours, toujours
active.
En train de créer à chaque seconde. Ça veut dire, par exemple, quand Dieu a dit que la lumière, quand Dieu a dit que la lumière soit, la même parole d'Hachem qui a dit que la lumière soit, cette parole continue
elle
et c'est elle, c'est elle qui génère constamment la lumière.
Constamment. C'est renouveler, c'est-à-dire qu'il refait à chaque fois. C'est pas renouvelé.
On va renouveler. Vous me suivez?
Ouais.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, c'est très très important ce qu'on est en train de dire.
La parole continue à dire.
Ça veut dire que la parole, c'est pas qu'elle continue à dire, c'est que la parole, c'est une seule parole qui a un impact, qui s'arrête pas jusqu'aujourd'hui.
Donc ça veut dire que la parole, elle continue.
Donc ça veut dire que Dieu est en train de créer le monde maintenant. Donc ça veut dire que Dieu ne donc ça veut dire que Dieu ne peut pas se détacher du monde.
Bah,
il doit arrêter de parler. Si s'arrête de parler, le monde n'existe plus.
D'accord.
On va expliquer pourquoi dans le chapitre 2. Et là déjà on comprend. Ah voilà, parce que
si elle est là.
Je t'explique pourquoi parce que Lola Machin Vachanitza Bashamaim, c'est quoi la première chose qu'Hachem a fait quand il a créé le monde?
Il a séparé.
D'accord. Yehi Raki Abetochamaim. Il a créé un firmament, c'est-à-dire qu'il a créé la notion de Shamaim. Shamaim, c'est quoi Shamaim?
Les cieux.
Les cieux. Eshmaim, Shamaim.
Oui.
Cette parole qu'Hachem a fait, elle est toujours dans les cieux. Ça veut dire que, qu'est-ce qui génère les cieux à chaque seconde? Qu'est-ce qui génère les cieux avec tout ce que ça englobe? Parce que, dans les cieux, il y avait tout. Il y avait les as qui n'étaient pas encore mis en place, mais il y avait tout sur orbite, mais il y avait déjà tout. Eh ben, la parole d'Hachem qui a créé le monde le premier jour, Léolam Nachem Vachanitza Vachem. Cette parole est toujours dans le ciel, elle est toujours en train de générer le ciel maintenant. Maintenant, ce concept ne s'applique pas seulement pour Shamaïm, c'est lui pour tout le reste. C'est par exemple la lumière. Qu'est-ce qui génère la lumière que je vois maintenant? C'est la parole d'Hachem qui a dit, au premier jour de la création, le matin, que la lumière soit. D'accord? Qu'est-ce qui fait par exemple que dans le monde il y a une séparation entre les eaux, et enfin les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, et les eaux de et les océans, et les... c'est le fait qu'il y a la parole d'Hachem qui a dit que les océans sont séparés, etc. Chaque chose. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des poissons? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des animaux? C'est la parole qu'Hachem a dit. Il faut que ce soit. Alors ça c'est très intéressant, mais ça va nous déranger un petit peu, parce que le problème c'est que la paracha Bereshit est très courte.
Elle s'arrête à vendredi.
Et elle s'arrête à vendredi. Bon, t'as pas grand-chose. T'as une page et demie dans le Sefer Torah. Il y a beaucoup de choses qui sont pas écrites là-bas. Il n'y a pas écrit le mot bouteille dans la paracha Bereshit. Donc Dieu n'a pas dit que la bouteille soit. Donc, si tu m'avais dit, comme tu as dit tout à l'heure... Écoutez ma question, c'est une question profonde. Si tu m'avais dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'élément de base, et après, avec le temps, la nature s'est développée, on a développé, etc., je comprends. Il y a du plastique, qui vient du pétrole, qui vient de ci, qui vient de ça. Mais c'est pas ce que tu me dis. Tu me dis que chaque seconde, Hachem recrée tout. Donc ça veut dire que Hachem il doit créer maintenant la bouteille en plastique. Donc il me faut une parole divine qui dit Dieu dit que la bouteille soit. Mais il n'y a pas de parole comme ça. Alors d'où elle sort cette bouteille?
D'où elle sort?
L'esprit de l'homme.
Mais d'où elle sort?
D'où elle sort?
Tu comprends ma question?
Franprix.
Ma façon de voir les choses, c'est que cette bouteille c'est une évolution.
Ben oui.
Mais tu viens d'expliquer que Dieu n'est pas une évolution. Que Dieu c'est constant, qu'il recrée le monde chaque seconde. Donc il n'y a pas d'évolution. Donc, s'il n'y a pas d'évolution, qui a créé cette bouteille? Donc, en fait, il faut trouver.
Il donne la force.
Et c'est la seule réponse possible. Il faut trouver une explication pour dire que dans la paracha Bereshit, tout est écrit. Même la bouteille. C'est vrai, il faut savoir lire.
Elle est chaude, la bouteille.
Attends. Il faut savoir lire. Il faut savoir lire les combinaisons. Mais elle est écrite.
Ah, d'accord.
Parce que sinon, elle n'existerait pas.
Oui.
Maintenant, cette bouteille, elle est unique. Il y a des milliards, de milliards, de milliards de bouteilles dans le monde. Mais cette bouteille, elle est unique. Il n'y a aucune bouteille qui est comme ça. Chaque atome est unique. Chaque atome doit avoir un identifiant correspondant dans la paracha Bereshit. Avec les combinaisons qu'on va citer. Parce que les combinaisons sont limitées quand même. Combien de combinaisons vont arriver?
6.
On va besoin de ta calculette. Hein, mais ça ne suivra pas, mon avis. Parce qu'on va donner des combinaisons, de combinaisons, de combinaisons, de combinaisons. D'accord? Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pas trop vous.
Ah, tu peux lancer la combinaison. Hein,
en fait, hein? Oui, il sera encore un calculé dans une semaine. Déjà, ce que je voulais qu'on retienne dans le cours d'aujourd'hui, c'est ça. C'est la notion que, à part la mitzvah de croire en Dieu, il y a une mitzvah de croire en l'unicité de Dieu. Comment comprendre cette mitzvah? Il y a eu trois approches. L'approche de Maïmonide qui dit que croire en l'unicité de Dieu, ça veut dire que Dieu dirige seul et qu'il n'a aucun aide, aucun employé, aucun sous-chef. L'approche du Zohar, c'est de dire que l'unicité de Dieu, ça veut dire que tous les noms d'Hachem, toutes les forces d'Hachem font partie d'un seul élément, qu'on va dire, qui s'appelle Hachem. Et l'approche de la Chassidut qu'on a commencé seulement à expliquer, c'est de dire que c'est quoi Hachem Echad, que Dieu est un, ça veut dire que toute la création fait partie de l'unicité d'Hachem. Mais c'est compliqué ça, parce qu'il faut, c'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, on va devoir éduquer notre cerveau pendant les quelques cours qui vont suivre, à retrouver l'unicité d'Hachem partout. Donc ça, vous avez parlé de Matrix tout à l'heure, ça va nous rendre un peu fou. C'est-à-dire que tu vas voir un verre, tu vas pas voir comme tu le vois maintenant. Tu vas dire, bon, c'est ce verre, c'est l'unicité d'Hachem qui est dedans. Mais il y a l'unicité d'Hachem dedans, et l'unicité d'Hachem qui est dans le livre, mais c'est la même en vérité. Mais si c'est la même, pourquoi ça c'est un verre et ça c'est un livre? Hein? Il faut des réponses. On a intérêt à avoir de bonnes réponses.
Non, des réponses suffisamment approfondies pour qu'on puisse les comprendre.
Non, alors. Dans
le concept.
Des réponses, concept. Alors je vous dis, des réponses, on n'en aura pas. Des réponses absolues.
Oui,
c'est mort là.
Non, deux secondes. Mais je vais vous donner le mode d'emploi.
La Emouna?
Non.
Non, le concept.
Le concept.
Le concept.
Le concept. Le concept des guimatrias, comment ça marche? Comment, avec une page et demie dans le Sefer Torah, je peux te créer tous les atomes qu'il y a dans le monde? Chaque atome est écrit dedans. Et qu'il est créé par ça, parce que s'il n'était pas écrit dedans, il ne peut pas être généré. Il faut expliquer comment, parce que finalement, c'est un nombre limité de lettres. Donc, comment tu fais? Tu fais des combinaisons. Combien de lettres tu mets dans une combinaison? 3, 5, tu peux faire des permutations, pas des permutations. Il y a combien de méthodes possibles, etc. On va voir. Et vous verrez, j'avais essayé de faire un calcul.
C'est quoi, en mathématiques, c'est quoi? Que vous pouvez tout faire tenir le monde dans un chat d'une aiguille, c'est ce genre de... mathématiquement, mais c'est un peu...
C'est un peu différent, là.
C'est un peu différent.
Là, c'est exactement le contraire.
Ah bon?
Là, je vais te montrer comment, dans le chat d'une aiguille, en vérité, il y a des milliards de milliards de milliards. Je vais prendre la démarche inverse. Ouais.
Bon, mais déjà, pour relative, déjà, même si l'homme, mathématiquement, il arrive à démontrer ça, c'est-à-dire que, quelque part, c'est...
On va faire la démarche inverse.
Ouais, la démarche inverse.
Je vais montrer comment tout est écrit dans Bereshit. Bereshit, tout est écrit. C'est ça que les grands tzadikim, toujours, Bereshit, c'est là-bas, chez eux.
Ah, pourquoi, si tout est écrit dans Bereshit, pourquoi il y a plusieurs parachiot?
Non, Bereshit, c'est la création du monde.
Mais si la création... C'est pas la création du monde. Si. Non, c'est la Bereshit, c'est la création de tout en permanence.
C'est la création constante du monde. Ouais, après, il y a une Torah et des mitzvot.
Constante.
Ouais. Création constante du monde.
Ouais.
C'est la base, Bereshit. Tout est là. C'est-à-dire, même tout ce qui va arriver dans le monde, tout est écrit. Bereshit.
Dans le bête, seulement.
Comment on n'arrive pas à le...
Hein? Il va venir dans Bereshit.
Comment on n'arrive pas à le découvrir?
Oui, jusqu'à Mashiach.
Tout.
Tout est écrit.
Alors quand c'est Mashiach?
Il faut savoir permuter les lettres.
Toutes les énergies, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, sont dans Bereshit. Même moi, par exemple, depuis ma naissance, etc., j'ai toute l'énergie que j'ai utilisée, c'est de l'énergie, c'est de l'énergie, c'est d'où vient cette énergie. Tout est écrit dans Bereshit. Tout est écrit dans Bereshit. Il n'y a rien qui n'est pas écrit dans Bereshit. J'ai mon code dans Bereshit qui me correspond à chaque seconde de ma vie. T'as peur? Tout est écrit. En tout cas,
si j'ai le code, je trouve ma vie dans le magasin.
Exactement.
Mais tout.
C'est ça?
C'est écrit.
Tu trouves le magasin de bonbons et après.
La suite au prochain épisode.
C'est comme ça.
La suite. Vous êtes imprévu là. La suite au prochain épisode.
Exact. Tellement un autre aussi. La même philosophie.
Non, c'est basé sur le Baal Shem Tov, ça.
Baal Shem Tov, c'est ça. Ainsi des goûts.